commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Alléluia.
Yasolo.
Olimo ekita ya solo Babeli babika ya solo Batu bazana prison babima kasi ya solo Ezala kaka lo yembote ya solo Alléluia. Seigneur, ce matin, nous voudrions te remercier pour le plus grand et le merveilleux don que tu as fait à l'humanité. Après les dons de ton Fils, pour qu'il meure et qu'il paye les grands prix pour nous sur la croix, tu nous as fait le don du Saint-Esprit. Et ton Fils a même déclaré qu'il était avantageux, profitable, qu'il puisse en aller, enfin que le Saint-Esprit puisse venir. Et parlant du Saint-Esprit, il a dit, lorsqu'il va venir, il vous conduira dans toute la vérité. Et pour nous, Seigneur, cette expérience d'avec le Saint-Esprit n'est pas seulement une date dans un calendrier. C'est une expérience de chaque jour. Et ce matin, nous te bénissons. Et prions de bénir ta parole. Et merci de faire de ce temps un moment d'équipement. Merci d'entendre cette prière et mieux encore de l'exaucer. Au nom de Jésus. Et tout le monde dit avec moi Amen alors qu'on acclame le Seigneur. Lisez avec moi ces trois portions des Écritures. 2 Rois chapitre 6, du verset 8 au verset 12. 2 Rois chapitre 6, du verset 8 au verset 12. Nous lirons aussi Matthieu chapitre 2, verset 13 à 14 et puis verset 16. Matthieu 2, 13 à 14 et 16. Et nous terminerons avec Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 13. 2 Rois chapitre 6, du verset 8 au verset 12. Les rois de Syrie étaient en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. » Le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu qu'il lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. J'aime cette coopération. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité, d'autres versions disent très troublé. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi mon Seigneur. Mais Élisée, les prophètes qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Quelqu'un croit que ces choses sont encore possibles aujourd'hui? Que ce soit fait selon ta foi. Ce que tes ennemis préparent contre toi ne sera plus un secret. Le secret sera désormais seulement un mot dans les dictionnaires, mais pas dans ta vie. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. On appellera sorcier. On dira c'est anormal. Oui, ça doit être anormal. Matthieu chapitre 2, verset 13 à 14 et puis verset 16. Lorsqu'ils furent partis, il s'agit des mages, Voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph. Seigneur, je prie que des anges apparaissent encore en songe à tes enfants. Et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Il ne l'a pas encore fait. Il n'y pense même pas encore. Il va y penser, mais Dieu parle de quelque chose. Joseph se leva, prit le petit de nuit, l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, sans la date dont il s'était soigneusement enquis auprès de mages. Éphésiens chapitre 6, verset 11, au verset 13. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang seulement, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, pas quelques-unes, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Depuis plusieurs semaines, nous parlons sur le thème des combats spirituels, une réalité. Et en ces jours, nous voulons aborder les sous-thèmes, le don de la parole des connaissances et les combats spirituels. Le don de la parole des connaissances et les combats spirituels. Au travers de cette intervention, je veux m'arrêter un moment sur cet enseignement. Je reviendrai encore dans quelques mois pour aborder d'autres aspects. Lorsque nous avons eu à introduire cet enseignement, au départ, nous avons eu à définir c'est quoi un combat tout court. Et définissant les combats, si vous vous souvenez très bien, lors de notre première séance, nous avons pris 3 directions. La première direction, nous avons dit que le combat, c'était une lutte dans laquelle 2 ou plusieurs adversaires étaient engagés. Et non seulement qu'ils étaient engagés, ils s'attaquaient et se défendaient en faisant usage de tous les moyens à leur disposition. Il y a lutte. On s'attaque et on se défend aussi. La seconde direction que nous avons eu à prendre pour définir ce qu'est un combat, c'est lutte ou opposition entre 2 ou plusieurs parties, avec comme but ou finalité de soumettre l'autre. C'est-à-dire avoir autorité sur lui, l'écraser et si même possible aussi l'anéantir. Troisième direction que nous avons eu à prendre pour définir c'est quoi un combat, nous avons dit que c'était l'action de se mesurer avec un ou plusieurs adversaires en utilisant tout ce que l'on peut avoir à sa disposition. Et l'objectif final, l'objectif minimal, c'est d'arrêter l'autre dans ses velléités. Mais l'objectif maximal, c'est pourquoi pas l'emporter sur l'autre. Quand il y a combat, on empêche à l'autre de nous nuire. Et le fait d'empêcher de nuire suppose quelquefois anticiper. Attaquer avant qu'on vous attaque. Mais quelquefois, c'est défendre, donc réagir après que vous ayez subi quelque attaque. Et nous avons aussi fait mention de certaines choses. J'en ai mentionné 5 au départ et il est bon que nous puissions nous remettre sur le même point avant que nous puissions continuer. J'avais mentionné 5 choses lors de la première séance que j'avais dit étaient des choses inévitables lorsqu'il y avait combat. La première chose inévitable lorsqu'il y a combat, des coups sont donnés. Lorsqu'il y a combat, on ne se caresse pas. Des coups sont donnés. Soit en termes d'initiative ou soit en termes de réaction. Deuxième chose, c'est que lorsqu'il y a combat, il y a utilisation d'armes offensives ou défensives. Troisième chose que nous avons mentionnée et que j'aimerais encore revenir, c'est que le but minimal lorsqu'il y a combat, c'est la protection. Le but minimal et quelquefois la protection. ou même l'anéantissement des actions de l'autre. C'est-à-dire empêcher à l'autre d'atteindre le but qu'il veut atteindre. Mais le but maximal, quelquefois, quand il y a combat, c'est la maîtrise de l'autre et même quelquefois l'anéantissement. Un célèbre politique de l'époque, parlant de la révolution, mais il voulait mettre derrière la guerre. Il a dit, la révolution n'est pas un dîner de gala. On s'habille pas en trois pièces. Quatrième chose, inévitable lorsqu'il y a combat, il y a utilisation de l'intelligence. Que faire? Quand faire? Comment le faire? Et cela intervient la notion de la stratégie. On peut avoir des armes, on peut avoir l'équipement qu'il faut, mais s'il n'y a pas de méthodologie, on peut passer à côté. Et la cinquième chose inévitable qui va nous servir de pont pour continuer dans la suite, c'est la nécessité d'avoir l'information. L'information est d'une grande importance dans les combats. Qui est l'ennemi? Qu'a-t-il comme arme? Que va-t-il faire? Qu'est-ce qu'il pense? Avec qui il est? Et souvenez-vous qu'au début de cet enseignement, nous avons rappelé une parole, ou mieux, une promesse faite à David. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais que moi, en priant, Dieu m'a dit, approprie-toi de cela. C'est un logos parce que c'est écrit dans la Bible. C'était un réma pour David, mais moi, en priant, Dieu a fait de ce logos qui était un réma pour David, c'est devenu aussi un réma pour moi. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, ça peut aussi devenir votre réma. Il dit à David, dans Psaume 89, verset 22 à 23, « Ma main les soutiendra et mon bras les fortifiera. » Mais cette phrase qui suit, elle est importante. Il dit, « Mais l'ennemi ne les surprendra pas. » L'ennemi ne les prendra pas en défaut. Quand je préparais cet enseignement depuis le début, la première fois que j'ai lu ce verset, ça fait tilt dans mon cœur. Dieu m'a dit, « Approprie-toi de ce verset. » Je le déclare dans les combats de ma vie, physique ou spirituel, aucun ennemi ne me surprendra. Et si vous êtes d'accord, dites moi aussi. L'ennemi ne les surprendra pas. Une autre version dit, l'ennemi ne tombera pas sur lui subitement sans qu'il le sache. J'ai lu encore une autre version dynamique qui dit, l'ennemi ne le prendra pas par défaut sans qu'il soit tenu au courant avant. Surprendre, c'est prendre au dépourvu quelqu'un de manière inattendue. Il n'est pas préparé. Il y a absence et difficulté d'une bonne réaction parce qu'on ne s'y attendait pas. Tous les stratèges militaires reconnaissent la valeur et le grand rôle et même l'importance de l'information. Demandons aux stratèges militaires, demandons aux gens qui sont dans les partis politiques. Ils vous diront, c'est la nécessité de l'espionnage. Connaître ce que pense l'autre. Et à cause de ça, il y a infiltration. Dans tel parti, vous avez l'impression que c'est les militants les plus dynamiques. Mouhibi. On l'a envoyé dans comme seul but d'avoir les informations. Parce que l'autre est con, c'est que s'il n'a pas l'information, il est perdant. C'est toujours difficile que de découvrir les choses au moment. La réaction est lente. On ne sait pas quelle arme utiliser. Si vous savez déjà qu'ils vont utiliser les F-14, vous prenez ce qu'il faut. Mais si vous ne savez pas, vous arrivez avec des petits Kalachnikov et vous entendez le tout tout. L'état d'aller à Massine à chercher l'arme appropriée, ça peut être fini. Je le déclare, l'ennemi ne nous surprendra pas. Demandez aux gens qui travaillent dans les renseignements. Demandez à ceux qui dirigent. Ils vous diront les gros moyens qu'ils mettent pour aller de l'autre côté. Savoir ce que les gens font. Opposition, il y a quelqu'un de la majorité. Dedans. Ils chantent avec vous. Majorité, il y a quelqu'un de l'opposition. Et même l'infiltration, pour qu'elle soit meilleure, doit aller dans les sphères les plus élevées. Dans les directoires. Dans ceux qui chantent, il y a imamé, tout signé, yoma. Il y a signé. À signer les binots. Quand vous chantez comme ça, vous êtes au binot. C'est que dans ces décès, on a dit qu'on ne voit pas nionso. Et vous êtes étonné que vos stratégies sont connues. Et l'espionnage ne s'arrête pas seulement dans la direction des nations, ça va juste sur le plan économique, sur le plan industriel. L'information est d'une grande, très grande importance. Dis avec moi, important. C'est pour cela, comme je l'ai dit, on met des gros moyens pour infiltrer un groupe adverse. Il y a ce qu'on appelle des taupes qui rentrent dans l'autre groupe. J'aime beaucoup la lecture. Je n'aimerais pas citer le nom de ces messieurs ici pour ne pas trop faire sa publicité. Mais l'un des plus grands stratèges, il a vécu il y a plusieurs années, plus de 25 siècles, en chinois. Si vous allez dans toutes les écoles de guerre, dans toutes les écoles de renseignement, s'il y a 10 cours, 5 cours ou 6 sont basés sur lui. Clairvoyant déjà à l'époque, il a dit « Connais l'adversaire et tu seras invincible. » Connais l'adversaire et connais ses intentions et tu seras invincible. Il a dit une autre phrase, il a dit « Qui connaît l'autre et ses intentions peut livrer 100 batailles sans en perdre une. » Qui connaît l'autre et ses intentions peut livrer 100 batailles sans en perdre une. Il a encore dit, les camps qui gagnent et celui qui gagne la bataille de l'information. Il a ajouté, il a dit, l'information est la clé de la guerre, stratégiquement, opérationnellement, tactiquement et techniquement. Il est allé plus loin, il a dit, l'information prépare les combats. Elle détermine les où, les quand, et avec qui, les comment on devra combattre. Il a dit l'information procure des ressources et équipe les combattants d'avance. Il a dit l'information réduit l'incertitude et exclut les hasards. Il a dit plus on est informé, plus il est facile de parer les coups de l'adversaire. Plus on est informé. Et il a dit ceci, la lutte contre les hasards coûte beaucoup. Je veux pas me battre au hasard. Je veux être informé. Et un grand général américain qui faisait partie du service d'État, citant cet homme, il a dit l'information est l'un des objectifs opérationnels cruciaux sur lesquels le département d'État doit concentrer ses efforts. Tout faire pour savoir ce que pense, fait et prépare l'autre. Il a insisté. Tout faire. C'est-à-dire utiliser n'importe quel moyen pour connaître d'avance notre ennemi, il ne nous surprendra pas. Et dans le combat qui est le nôtre, il y a possibilité d'avoir l'information. Il y a possibilité de connaître d'avance qui est notre ennemi, qui nous veut du mal. Vous savez, un ennemi que l'on connaît, c'est un ennemi à moitié vaincu. Le grand problème, c'est que nous marchons avec des gens, nous voyons les visages. Au bureau, au travail, au quartier, certains nous sourient, mais nous ne savons pas ce qu'ils ont dans leur cœur. Mais j'aimerais nous dire, Dieu m'a dit, les masques vont tomber. Nos ennemis ne seront plus jamais cachés. Quand il y a eu la guerre de Vietnam, on était étonnés de voir des djihadistes américains mourir, mais la plupart des fois, ils étaient abattus de dos. On ne comprenait pas ce qui s'est passé. Et finalement, on s'est rendu compte que ces soi-disant cultivateurs des riz vietnamiens, c'est au fait des militaires. Vous les voyez avec des chapeaux, comme en train de cultiver. Les militaires passent, ils disent, ce n'est qu'un cultivateur. Dès qu'il est passé, il sort son arme et il tire. Alors désormais, quand ils ont su se méfier de tout le monde, combien n'a-t-il pas eu de guerre où les fous étaient des informateurs, de telle sorte qu'à un moment, quand ils ont su, et le vrai fou et le faux fou, on n'a plus fait de distinguo. Ah, il est possible de connaître qui est notre ennemi. Mais il est aussi possible de connaître que veut-il faire et quand va-t-il le faire. Et les deux principaux passages que nous avons lus nous montrent cela. Nous montrent l'importance et la valeur de l'information. Surtout l'information anticipée. De Rois 6, versets 8 à 12 que nous avons lu, Israël est en hostilité avec les Syriens. Et la Bible parle d'une chose. Les rois de Syrie réunissent en conseil secret. Ils disent, notre camp sera à tel endroit. Et ce que j'aime, c'est que lui, il disait là, dans son bureau d'études, avec des murs insonorisés, je m'imagine, les sons parvenaient à quelqu'un. Les prophètes en Israël allaient dire au roi, voilà ce qui va se passer. J'aimerais les déclarer ici à Philadelphie, ces choses sont encore possibles aujourd'hui. Aucune réunion contre vous sera absente de votre pensée. Dieu vous les fera connaître. Et du reste, à la fin, Dieu m'a dit, prie pour cela. J'aimerais dire, si vous suivez cette prédication sous forme d'information, vous aurez des informations. Votre canevas, vos papiers remplis. Noir sur blanc. Ou bleu sur blanc. Mais si vous voulez être impacté, recevoir quelque chose, vous allez aussi recevoir. L'abbé dit, cela n'arriva pas une fois, non pas deux fois, mais plusieurs fois. Seigneur, que cela arrive souvent. Que cela soit notre mode de vie. Le verset 11 dit, le roi de Syrie en eut le cœur agité, troublé. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Il dit, il y a quelqu'un qui vend la mèche. Il y a quelqu'un qui apparemment est avec nous, mais n'est pas avec nous. Hein? Mais j'aime la réponse qu'il y a de nous au verset 12. L'un de ses serviteurs répondit, personne, nous tous nous sommes avec toi. Mais tu as un problème. Élisée le prophète, qui est en Israël, il dit, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Il rapporte cela. Il vient de dire ça. Je les déclare, ces choses seront expérimentées par des hommes et des femmes d'ici. Le mot secret n'existera plus pour toi. Israël connaît l'information au préalable. Et l'information qu'il connaît au préalable les rend capables de réajuster leur comportement. Et quand l'ennemi arrive, son plan échoue. Il est étonné. Le deuxième texte que nous avons lu aussi, il est glorieux. Matthieu 2, 13 à 14. La manière dont Joseph a connu d'avance. Subitement, il est devenu détenteur. Non seulement des événements qui ne sont pas encore là. Qui ne sont même pas encore montés dans le cœur d'Hérode. Mais Dieu lui fait connaître cela d'avance. Voilà ce qui va se passer. Hérode cherchera. Il ne cherche pas encore. Il cherchera à tuer les petits enfants. Fuis. Et là, je me rouvre une parenthèse que je fermerai rapidement. Il nous faut apprendre à écouter Dieu. Est-ce que Dieu était-il incapable de protéger Joseph, Marie et Joseph, et le petit Jésus? Dieu lui-même a dit, fuis. Le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu capable. Et il dit à Joseph quoi? Fuis. Il est fort, mais il dit quoi? Fuis. J'ai connu une traîne en 90. J'étais arrivé à un endroit et on parlait, puis quelqu'un m'a présenté à boire. J'ai senti dans mon cœur, j'en parlais tout à l'heure, plus on va avancer. Il y a des moments quand vous êtes en communion avec Dieu, vous savez des choses. Vous savez par l'esprit. L'esprit m'a dit, ne bois pas. Mais voilà, c'était déjà servi. Et puis entre guillemets, mouton sonné. Seigneur, tu es un homme là. Yo songa. Et juste, je m'apprêtais à boire. 90, un chat est passé. C'était un petit tabouret. Le verre est tombé. Bah. Ils ont encore servi, j'ai dit Mfumunza. Seigneur, le même chat est revenu. 5 minutes après, paf. Cette fois-ci, j'ai dit, Dieu m'a aidé 2 fois, il ne m'aidera pas 3 fois. J'ai dit à la mienne, en tout cas, remets la paix les sociétés. Je fais comme si c'était de la blague, mais j'en ai profité. Vous allez me dire que ça, c'est les hasards. Avec les choses de Dieu, ne faites jamais les monimambo. Des frères et sœurs, on a l'amour qui sonne. Prends l'enfant et fuis. Et ils sont partis. Chaque fois, il y a comme une constance. Information, connaissance, précaution, échec du plan initial des ennemis. Information, connaissance, précaution. Dites avec moi précaution. Et échec du plan initial des ennemis. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de connaître les projets de nos ennemis au moment de leur conception et même avant leur exécution. Et le plus merveilleux avec notre Dieu, c'est que nous avons la possibilité de connaître même leurs intentions, que eux ne sachent pas, qu'ils savent pas que nous connaissons. Nous connaissons ce que eux pensent, mais eux ne savent pas que nous savons. Alors que Joseph sait, Hérode ne sait pas que Joseph sait. Mais Joseph sait. Seigneur, je prie que cette saison commence à Philadelphie. Jésus savait, et de sorte que quand Judas s'est avancé, il dit ce que tu veux faire, fais-le maintenant. Tu penses que je ne suis pas au courant, je suis au courant. Et l'un des moyens que Dieu donne aux croyants, c'est un don spirituel appelé les dons de la parole et connaissance. Un des moyens pour connaître, un des moyens pour rentrer dans la connaissance spéciale. Et par rapport au don spirituel, j'aimerais dire un certain nombre de choses, et puis après nous allons prier. La première des choses que j'aimerais dire, c'est que les dons spirituels, en général, sont des capacités surnaturelles. Dites avec moi surnaturelles. Que Dieu donne aux croyants par le Saint-Esprit. Capacités surnaturelles. Que Dieu donne aux croyants par le Saint-Esprit pour accomplir des choses. Ils ne sont pas les fruits de l'éducation. Pas le fruit de l'instruction. C'est même pas la conséquence de la longévité dans la foi. Deuxième chose que je me redis concernant les dons spirituels, et spécialement les dons de la parole des connaissances, les dons de la parole des connaissances font partie des trois dons qu'on appelle les dons des révélations. Quand lisons en Corinthiens chapitre 12, du premier verset jusqu'au verset 14, nous trouvons tout ce que l'apôtre Paul enseigne sur les dons spirituels. Mais là, il présente 9 dons spirituels qui peuvent être classés en 3 sous-groupes. J'aimerais pas trop m'attarder. Mais dans le premier sous-groupe, il y a les dons des révélations. Dons par lesquels le Saint-Esprit rend capable les croyants, par le Saint-Esprit, de connaître des choses. Il y a les dons de la parole de sagesse, dons de la parole de connaissance, et les dons de discernement des esprits. Deuxième chose que j'aimerais dire, l'on ne parle pas du don de la connaissance. Mais la Bible parle du don de la parole des connaissances. Le mot parole veut dire portion. Quand ce don est exercé, Dieu nous fait rentrer dans son monde à lui. Dieu est omniscient. Mais il nous donne momentanément, subitement, pour un moment, l'omniscience comme lui. Omni, tout, science, connaissance. Dieu est omniscient. Quand ce don est exercé, laissez-moi te le dire en lingala, comme une zambe pour un moment. Ah Seigneur, donne-moi des crises d'une zambologie. De temps en temps que j'ai ça. Et la Bible ne dit pas les dons de la connaissance. Tu ne deviens pas quelqu'un qui connaît tout le temps et de manière permanente. Ça vient subitement. Et s'en sera capable de connaître. Il te donne une révélation partielle de ce qu'il sait. Quatrième chose, lorsque ces dons est exercé, Dieu rend les croyants capables de connaître comme lui connaît. C'est-à-dire, il nous fait entrer dans son monde à lui. Dans le monde qui appartient à lui seul. Laissez-moi vous dire, même les anges ne sont pas omniscients. Même les démons ne sont pas omniscients. Le diable même n'est pas omniscient. Ah, je prie que de temps en temps, et que c'est de temps en temps deviennent souvent, que nous puissions vivre dans ce monde. Dans Jérémie chapitre 15, verset 15, les prophètes disent concernant Dieu, tu sais tout, ô éternel. Lui sait tout. Une autre version dit, tu es au courant de tout. Dieu n'a pas besoin d'être informé. Dans Psaume 33, Verset 13 au verset 15, le psalmiste dit, l'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Rien ne lui échappe. Dans Psaume 139, versets 1 à 3, le psalmiste ajoute encore, tu sais quand je m'assieds et quand je m'élève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Mais j'aime surtout la suite. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà tu la connais, ô Éternel. Tu la connais entièrement. Dans Jean chapitre 2, verset 25, parlant de Jésus, il dit, il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage sur un homme. Car il savait tout ce qu'il y avait dans l'homme. L'homme naturel, il connaît par des voies humaines. C'est-à-dire qu'il a besoin d'un canal pour recevoir l'information. Quelqu'un vient lui dire. Mais quand on évolue dans ces dons de la parole des connaissances, on n'a pas besoin d'un canal humain. On n'a pas besoin d'un canal matériel. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 10, la Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Mais j'aime le verset 10, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Une autre version dit, Dieu nous les a rendues accessibles. Seigneur, aide-nous à rentrer dans le monde de l'Esprit. Il a rendu ces choses accessibles, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Cinquième chose que j'aimerais mentionner, c'est que les dons de la parole des connaissances n'est ni l'intuition, ni encore le fruit de l'expérience. Ce n'est pas de l'intuition. L'intuition, c'est cette capacité naturelle de percevoir ou de comprendre les choses à partir des signes infimes. Et là, les femmes sont fortes. Mais le don de la parole des connaissances, ce n'est pas de l'intuition. Ça, c'est pas le don de la parole de connaissance. Ce n'est pas non plus le fruit de l'expérience. L'expérience est pratique ou vécue qui permet avec le temps d'acquérir un savoir. Savoir fait des connaissances liées au fait qu'on a vécu, on a expérimenté des choses. On a tellement vécu, on a tellement fait des interviews, et on sait que quand quelqu'un ment, les lèvres tremblent. Il est en train de mentir. Ça, c'est pas les dons de la parole des connaissances. Ça, c'est l'expérience. Ou quand il parle, les yeux clignent. Isaac quelqu'un dit vend dimanche. Quand le sacrificateur Élie a su que c'est Dieu qui appelait le jeune Samuel, ce n'est pas le don de la parole de connaissance, c'est l'expérience. Ça veut dire qu'il comprit. Et le don de la parole de connaissance est très très différent de cela. Sixième chose que j'aimerais mentionner, c'est que lorsqu'il est exercé, les dons de la parole des connaissances touchent la connaissance des faits, des circonstances, d'événements ou des personnes. Les dons de la parole des connaissances touchent la connaissance des faits, des circonstances, d'événements ou des personnes. Et cette connaissance est cachée à la perception naturelle. C'est la vision que Dieu a des hommes et des choses et qu'il donne à l'homme. Septième chose que j'aimerais aussi mentionner, c'est que ces dons, celui de la parole des connaissances, lorsqu'il est exercé, il touche les situations en rapport avec trois temps. Le passé, le présent et quelquefois le futur. Je dis quelquefois parce que souvent ça ne touche pas le futur. La plupart des fois, c'était par des choses passées. Ou des choses présentes. Nous voyons ces dons, et dans l'Ancien Testament, dans le ministère de Jésus-Christ, et même dans les chefs de l'Église primitive. Quand nous lisons les premiers livres de Samuel, au chapitre 9, versets 15 à 16, on voit ses dons s'exercer. Saül a perdu, plutôt est allé à la recherche des ânes perdues de son père, et après plusieurs jours de recherche, ils n'ont pas trouvé, et il s'apprête à rentrer. Mais son compagnon qui était à ses côtés lui a dit, il y a dans cette ville un voyant, un homme de Dieu. Allons le voir. J'aime ce que le verset dit. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti. Dites avec moi, averti. J'aime ça. L'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu l'oindras pour chef sur mon peuple. Quand Saül arrive, il a l'impression que c'est un hasard. Mais Samuel attendait un rendez-vous. Parce qu'il connaissait d'avance. Du reste, Saül était étonné. Dès qu'il est rentré, Samuel a dit à son serviteur, « Prends les morceaux que je t'avais demandé là de garder. » C'est l'homme pour qui on avait gardé ces morceaux. Il a l'impression qu'il arrive accidentellement. Mais il ne sait pas que quelqu'un évoluait dans les divins. Je prie que dans Philadelphie, il y ait des milliers qui évoluent dans les divins à qui Dieu a averti. Dans 1 Samuel chapitre 10 au verset 22, Saül vient d'être choisi comme roi. Et alors qu'on est en train de chercher les rois pour les oindre, on ne les trouve pas. Et subitement Samuel s'élève et dit, il est caché derrière les bagages. Il est allé chercher derrière les bagages, on a trouvé Saül. Aide-nous Seigneur à voir comme toi tu vois. Ces choses sont possibles. Que dire de Élie? En 2 Rois chapitre 6 au verset 26, quand je préparais cet enseignement, hier quand je suis arrivé à cet endroit, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais vivre cela. J'aimerais le dire à voix basse, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais vivre cela même avec mes collaborateurs. Guéasi est revenu calmement. Où étais-tu? Nulle part. Et Élisée lui dit, mon esprit n'était-il pas avec toi? J'espère que mon esprit soit là où qu'elle sera. Je prie que quand Boutaveron viendra me dire des choses, je l'informe. Je sais que lui ne l'a pas dit Amen, mais moi j'ai dit Amen. Mon esprit n'était-il pas avec toi? J'aimerais dire ces choses sont encore possibles. Ah, si nous avons cette façon de voir les choses, que des choses changeront. Dans l'éducation de nos enfants, dans l'intercession, j'en parlais lors de l'une des réunions. Vous savez, en tant que pasteur, il y a des choses que les gens peuvent dire. Ils voient les degrés de confiance. Pasteur, il va 10 dollars. Il y a des choses que les gens peuvent dire. Il y a des choses que les gens aiment dire. Mais il y a des choses que les gens ne diront si l'œil de Dieu ne va pas chercher cela. Combien de gens nous font souffrir quelquefois des entretiens pastoraux? Je connaissais en 94 ou 93, je ne me souviens plus très bien. Un jeune homme qui est venu de l'Europe, français, léché. Entretien, premier jour, deuxième, et il m'est relaté, pasteur. Je vis des choses redondantes, pasteur. Le troisième jour, quand il est allé, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi exactement? Je ne dis pas d'oser de faire, parce que la plupart, quand ils entendent un témoignage comme ça, la prochaine fois, ils essayent aussi. Vous risquez de blesser quelqu'un alors que ce n'est pas Dieu. Et je, distinctement, j'ai entendu Roland, son problème, c'est la sorcellerie. Wow. Je dis, Seigneur, moi, je connaissais des sorciers sales. Un jeune homme beau, français, terrible, quand il venait à mon bureau, toujours en costume, cravate, je dis, Seigneur, est-ce qu'il y a des beaux sorciers? Et le quatrième jour, il rentre dans mon bureau. Il a voulu commencer à parler. J'ai dit, arrête-toi. Peut-être que je me trompe. Je préfère te dire ce que Dieu m'a dit. Ton problème, c'est la sorcellerie. Il a dit, exactement. Comme je vous dis, exactement. Donc, j'aurais pas eu la révélation, on serait allé encore. Non, j'ai fait des rêves redondants. J'ai vu des choses ambivalentes. Seigneur, donne à Philadelphie des hommes et des femmes qui voient, qui vont au-delà. Ah, nous avons vécu une scène, 93. À l'époque, nous avions une grande cellule à Barumbu et nous allions à une veillée de prière. Et nous sommes venus avec un taxi qui avait promis de nous laisser jusqu'au niveau de la gare centrale. Mais arrivons au niveau de Batet, là, il a dit, je m'arrête ici, il nous a déposé. La veillée devait commencer à 22h, il était 21h. Et nous sommes descendus, nous étions à 3. Et à peine on est descendu, on ne savait pas rester le bureau d'une jeune fille, son lieu de travail. Les gens de jeunes filles, quand nous allons dormir le soir, et leur travail commence aux alentours de 21h. Et nous l'avons vu passer en valorisant la marchandise. Et l'un des amis l'a appelé, il a dit, Roland Toté. Quand on l'a appelé, elle s'est dit, ce sont des clients. Et voilà encore. Ah, j'aime. Quand elle est arrivée là-bas, je ne vais pas vous dire qui a parlé. L'un des amis, l'un de ceux qui étaient dans ce groupe lui a dit, tu as 19 ans. Tu fais partie de telle province. Et tu as passé 4 ans de ta vie à ouvrir entre tel âge et tel âge. J'aime quand Dieu va fouiller. Tes parents ont divorcé quand tu avais l'âge de 14 ans. Et de l'âge de 17 ans jusqu'à 16 ans, ton père a commencé à te violenter. C'est lui qui t'a déviergé. Et du reste, à cause de ça, tu t'es fâché. Tu te dis, si mon père ne m'a pas respecté, je vendrai mon corps. Et le reste, il a dit, d'où me connaissez-vous? Seigneur, que ces choses soient encore d'actualité. Elle s'est mise à pleurer de tout son corps. Et je me souviens, nous l'avons entourée avec des amis et nous avons prié pour elle. Il y a eu une grande délivrance. Je revois encore quand à un moment elle est tombée et qu'on commençait à chasser les démons. Je revois encore la scène. Comment elle criait, miaou, 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 miaou. Je comprends pourquoi les Kinois disent, bachel, bazabachor. Qui pouvait savoir qu'il y avait des chats dedans? Miaou, miaou, miaou. Et on regardait du waouh. Et 45 minutes après délivrance finie, dès que les derniers démons sont sortis, subitement il est devenu pudique. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi d'être mal habillé. Mais avant, il n'était nullement consciente. Et ce que j'aime, c'est que ce jour-là, les boulevards ont perdu un travailleur. Mais l'église de Dieu a gagné quelqu'un. Je revois encore comment nous sommes allés jusqu'à notre cellule, non pas non plus à 3. On avait un quatrième homme. Et je revois encore comment nous étions en train d'adorer avec. Je retrouve encore 2 ans et demi après quand il s'est marié. Les jours de son mariage, je pleurais sur ma chaise. Dieu est capable de restaurer. Mais cela a eu une base. Voir les choses. Qu'il y a des gens qui ont des choses qu'ils ne connaissent pas. Qu'il y a des gens qui vivent des choses. Vous ai-je parlé ici de cette histoire de cette jeune fille qui chaque fois qu'elle était fiancée, des fiancés finissaient par partir. Elle avait un langage. Les hommes disaient, « Yondi ouzara nambeli namounoko. » Jusqu'au jour où on était en train de prier, on était à 2. Et puis voilà, l'un de nous a été saisi par l'Esprit de Dieu. Il a commencé à donner des détails. Vous êtes nés à 2. Entre toi et ton frère aîné, il y a eu 7 ans. Et Dieu me montre que ta maman est allée chercher des fétiches. Et dans ces fétiches, on lui a donné les os d'un singe. Et qu'on a broyé, on lui a demandé de faire des lavements. Et il voit clairement, je dis, je vois même, ce féticheur est allé avec ta maman en premier. En disant, pour qu'il y ait un enfant, moi je dois aller en premier. Et c'est que j'aime quand Dieu va dans les précisions. Il a dit, ce féticheur s'appelle Lukombo. Appelle le nom de Lukombo, était cité. Cette petite jeune fille qui est l'air frêle, Lukombo s'est manifesté. Et on a prié pour elle, totalement délivrée. Le soir, nous sommes allés voir sa maman. Elle a relaté mot à mot les récits. Qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Elle-même, elle ne savait pas. Que ces paroles, c'est Lukombo disait, Ngane n'a pas sa réponse. Pas à moi, si Nangai. Dans le ministère de Jésus-Christ, nous voyons ces dons Dans Jean 1, 47 à 49, la Bible dit, voyant venir à lui Nathanaël, il dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël dit, mais d'où me connais-tu? Il dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Dans Jean 4, 18 à 19, quand il rencontre cette femme au puits de Jacob, il dit, va m'appeler ton mari. Elle dit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, en cela tu as dit vrai. Car tu en as eu 5. Et même celui qui est en train de dormir chez toi à la maison n'est point ton mari. Waouh! Tu en as eu 5. Celui qui est en train de ronfler chez toi maintenant, il n'y a rien. Dis, je vois donc que tu es un prophète. Elle ira même jusqu'à dire aux gens du village, je vais aller voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Seigneur, aide-nous à vivre ces choses à l'église. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 10 à 12. J'aime cela. Paul, encore Saul de Tarse, il vient de rencontrer Jésus-Christ sur la route de Damas. Mais à des kilomètres de l'écouter ce que la Bible dit. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Seigneur, redonne les visions à ton église. Et il répondit, mais voici. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Dieu sait l'activité dans laquelle il est présentement. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains. Seigneur, rends-nous capables de savoir ce qui est en train de se passer quelque part. Ananias, voilà ce qui se passe sur telle avenue, à tel endroit. J'aimerais le déclarer, ces choses sont encore possibles aujourd'hui. Huitième et avant-dernière chose, avant que nous puissions prier. Ces dons se manifestent par plusieurs moyens. Ils se manifestent par les songes. Ils se manifestent par des visions. Ils se manifestent par des paroles audibles. Mais ils se manifestent simplement par une inspiration de l'Esprit qui vient. Un savoir que vous avez, qui vient, qui s'impose. Et vous ne savez pas comment vous savez, mais vous savez simplement. Et ce savoir a comme origine le Saint-Esprit. Et parlant des songes, souvent nous avons tendance à négliger les songes ou les rêves. Mais la Bible nous donne un enseignement équilibré sur les songes. J'aime la Bible est équilibrée. Dans Ecclésiaste au chapitre 5 au verset 3, les sages disent, les songes naissent de multitudes d'occupations. La Bible montre qu'il y a des songes qui peuvent naître simplement du fait qu'ils ont réfléchi. Le reste des psychologues disent que notre mémoire c'est comme un disque dur. Et quand nous dormons, ça fait comme un rewind. Ou alors, ça fait ressortir nos craintes. Ça fait ressortir nos souhaits. Mais j'aimerais dire, tout rêve n'est pas crainte et souhait simplement. Il y a des rêves qui sortent de ce qu'Ecclésiaste dit, de la multitude des occupations. Mais Job 33, verset 14 à 16, dit, Dieu parle. Dieu s'exprime, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Dieu parle, Dieu comme un émetteur, il émet un message. Mais malheur à nous, les récepteurs ne perçoivent pas. Combien de gens, Dieu veut leur parler. Dieu lance un signal, Dieu entend au ciel l'appareil de votre correspondant, et soit éteint, soit hors du périmètre cellulaire. Dieu dit, je vais essayer encore. Il essaie encore, pasteur Ken, reçoit cela. L'appareil du pasteur Ken, et soit éteint, soit hors du périmètre cellulaire. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on y prend point garde. Et le verset 15 dit, il parle par des songes. Dites avec moi, par des songes. Et la Bible ajoute, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. J'aime le verset 16. Alors il leur donne des avertissements. Et il met le sceau à ses instructions. Il signe cela et dit, ça c'est moi. La version française courante dit, il leur apporte des révélations et il les avertit définitivement. La version La Colombe dit, il informe les hommes d'avance. Dieu est un Dieu qui parle. Et des fois, il parle dans un symbolisme. Mais quand vous êtes tellement en communion avec lui, derrière les symboles, vous pouvez percevoir le message. Il était tellement en communion, derrière le volume des vaches, Joseph a su comprendre. Le volume, grand, ça veut dire abondance. Maigreur, ça veut dire disette. Il a vu derrière quelqu'un qui portait un chapeau. Et les oiseaux qui venaient, simplement picotaient, il a vu la mort. Seigneur, donne-moi la communion avec toi. 97, je suis à Nairobi. Il y a comme un blackout entre qui chance à nous 6 mois. On demande l'argent, ils n'envoient pas. Je demande 3 jours de prière. Je dis à mon épouse, je ne vais pas manger, je vais prier. Et je me suis mis à prier. À l'époque, je n'étais jamais allé en Afrique du Sud. Dernier jour, j'ai terminé la prière à 16 heures. Je dors un peu et j'ai une vision claire. Je vois, on me dit, dans 2 jours, on va t'amener au palais présidentiel à Pretoria. Et on m'a amené 2 jours après au palais présidentiel. Et là, j'ai été reçu par Mandela. J'ai vu le palais présidentiel. Je l'avais vu ni à la télé, ni par quelque autre moyen. Je suis rentré, Nelson Mandela m'a remis un chèque de 2000 dollars, 2000. Je me suis réveillé, j'ai dit à mon épouse, notre pasteur va m'envoyer un chèque. Il dit, mais toi, tu as rêvé de Mandela. J'ai dit, je ne sais pas expliquer. Vous savez, dans les choses de Dieu, la Bible dit, ce sont des choses spirituelles, et c'est spirituellement qu'on en juge. Et je lui ai dit, c'est dans 2 jours que cela va se passer. Et 2 jours après, on venait de terminer de manger au restaurant, on était assis, il y avait un call box, un téléphone public, ça sonnait, on savait reconnaître par les sons que ça c'était un appel international. Quand ça sonnait, les Kenyans disent, oh, this is an international call. Quelqu'un est allé, il a dit, allô, c'est pour toi. J'étais pas surpris. Je savais. Et au fond de moi, je savais qui était au bout du fil. Je ne sais pas expliquer. Je me suis avancé, j'ai eu mon pasteur et dit, va voir, quelqu'un est arrivé, il t'amène un chèque de... Alléluia! Ces choses sont encore possibles aujourd'hui. Mais une troisième chose avant de conclure. Genèse 41, verset 32. Joseph enseigne encore un principe sur les songes. Quand Pharaon lui parle, il dit, quand puisque tu as vu la chose revenir 2 fois, sachez que c'est arrêté. Quand Dieu parle par les songes, faites attention aux répétitions. Qu'il y a des gens qui meurent de culpabilité. Dieu leur a montré, ils ont négligé. Faites ceci, faites cela. Ils ont négligé et plus tard ils payent les pots cassés. Je prie que cela ne soit pas le cas chez nous à Philadelphie. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Notre temps est passé légèrement, mais je vous demande de rester avec moi. 9e et dernier point, ces dons sont accordés aux croyants en général. Mais surtout à une certaine catégorie de croyants. Les croyants qui remplissent 3 conditions. Premièrement, qui craignent Dieu. Psaume 84, verset 6 dit, ceux qui craignent l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. L'original en araméen veut dire, ils trouvent des chemins qu'ils connaissent d'avance. Seigneur, fait que quelqu'un marche dans les chemins tout tracés. Deuxième des choses qui peut faire que l'on puisse vivre ces choses, ceux et celles qui sont remplis du Saint-Esprit. Et pour être rempli du Saint-Esprit, il faut le vouloir. Dans Jean chapitre 7, verset 37 à 38, Christ criera le grand jour de la fête, que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donne-moi ce matin des hommes et des femmes qui ont soif. Tout à l'heure, j'aimerais que l'on rechante encore ces merveilleux cantiques Moli Mokita. Et je le sais, Dieu va nous équiper. Hier soir, je me suis mis à genoux prier pour cette réunion. Et j'ai vu quelqu'un comme à l'entrée distribuant des lunettes qui nous rendaient capables de voir des choses qu'on ne voyait pas. Seigneur, que ces lunettes soient données. Que cela soit donné ce matin. Mais troisièmement, ces dons sont donnés aux hommes et aux femmes qui aiment la présence de Dieu. Des amoureux de la présence de Dieu. Dans Nombre chapitre 24, verset 4, Balaam, tout en étant quelqu'un qui faisait un mélange, un syncrétisme, il connaissait les principes. Écoutez ce que Balaam a dit. Il dit, parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Il dit, Jésus, celui qui a l'oreille, qui s'ouvre, mais il a ajouté, parole de celui qui a la vision du Dieu Tout-Puissant. Mais il a ajouté un principe important. C'est lui qui, quand il se prosterne, ses yeux s'ouvrent. C'est lui qui, quand il adore, c'est lui qui, quand il reconnaît, donne-nous des hommes et des femmes ce matin qui vont se prosterner. Et quand on se prosterne, la conséquence, les yeux s'ouvrent. J'aimerais dire comme les Bakongo, Bongo la main, soé. C'est lui qui, quand il se prosterne, ses yeux s'ouvrent. Se prosterner cache 2 idées. La prière, mais surtout l'adoration. Et quand je parle de l'adoration, j'aimerais parler de la contemplation. Que les gens qui entrent dans la présence de Dieu en sortent directement. Dieu veut leur servir un repas complet. À peine ils ont goûté l'apéritif et ils partent. Alors que les repas complets sont en train de venir. Donne-nous, que dis-je, redonne-nous des amoureux de Dieu. Les gens qui aiment la présence de Dieu. dans Genèse 18 au verset 17. Un homme était tellement amoureux de Dieu. Quand ces êtres vivants spirituels sont arrivés, il a offert, ce qu'il a offert, c'était le symbole de l'adoration. Il est allé chercher un chevreau. Il est allé chercher du lait. Il est allé chercher des gâteaux. Il leur a donné. Et la Bible dit, il est resté dans leur présence. Il est tellement resté que, à un moment, la Bible dit, l'ange de l'Éternel lui dit, cacherai-je à Abraham ce que j'ai décidé de faire? Vous savez, quand vous aimez sa présence, Dieu n'a plus de secrets pour vous. Je n'avais pas l'intention de te le dire, mais tu m'aimes tellement que je veux te faire savoir des choses. Dans Apocalypse 1, verset 10, la Bible parlant de l'expérience des gens dans l'île de Patmos, il dit ceci, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis une voix forte derrière moi. » Les contextes montrent que, malgré qu'il était dans cette île, emprisonné, c'était un dimanche et ils avaient culte, le jour du Seigneur. Ils étaient en train de chanter, et Dieu l'a pris. Ceux qui aiment la présence de Dieu, Dieu finit par leur dire, « Monte, et je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite. » Donne-nous des gens qui aiment la présence de Dieu. Je termine avec ce merveilleux passage. Exode 24, 12 à 13, et puis 15 à 18. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi. Combien de gens, Dieu leur fait des appels des pieds. Tu es là devant la télé, tu sens comme un appel des pieds, Dieu dit, qu'à ta télévision, qu'est-ce que vous là? Mais c'est Barça, M.U. C'est Barça, Réal. Seigneur Nazouya. Monte vers moi. Et Dieu dit, reste là. Dites avec moi, reste là. Je te donnerai la loi, les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Quand vous entrez dans la présence de Dieu, vous sortez avec des choses écrites de sa main. L'abbé dit, Moïse s'éleva avec Josué qui les servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. J'aime le verset 15. Moïse monta sur la montagne de Dieu et la nuée couvrit la montagne. Combien de fois nous nous rassasions de la nuée alors qu'il y a plus? Mais le verset 16 ajoute, la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Mais écoutez ce que la suite dit. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuit. 6 jours, on ne l'appelait pas. Ce qu'il veut était déjà glorieux. C'est le 7e jour qu'on vient de dire, viens. Et l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Et Moïse a vécu des choses fantastiques. J'en ai simplement parlé à 3 personnes. J'en ai parlé à Ken. J'en ai parlé à Toms. J'en ai parlé à mon épouse. Ah, le mois de mars a été un mois glorieux pour moi. Je vous ai dit, c'est le 6 mars, Dieu m'a dit, Roland, rentre en jeûne. 7 jours pour prier. Je l'ai dit à Ken. À Tom, c'est à mon épouse. Le vendredi, j'ai passé 4 heures en train simplement d'adorer. J'avais l'impression que je n'étais plus sur cette terre. Et à un moment, quelque chose s'est passé. On m'a dit, prends un stylo. Je montrais les cahiers aux 3 simplement. J'ai commencé à écrire des choses. Je ne contrôlais plus ma main. Des choses sur Philadelphie, des choses sur les pays, des choses sur des gens. Je fais lire certaines choses. Je connais tellement. Mais il y a un prix. Vous avez la possibilité soit de naviguer à vue ou de connaître avant. Ce matin, je prie simplement que nous baissions nos têtes. Alors que la chorale nous chante un petit moment. Je prie que nous puissions oublier nos horloges un moment. Nous ne prendrons pas au-delà de 10 minutes, mais je sens dans mon cœur que ce temps est un temps d'équipement. Pendant que le cantique sera en train de jouer, Moli Mokita, fais ce qui te semble bon. Quand j'ai prié ce matin, Dieu m'a dit, quelqu'un pour qu'il vive des choses, il ne faudra même pas qu'il se mette à genoux, qu'il se couche. Dieu me dit, ne demande pas, adore. Dieu me dit qu'il y ait quelqu'un ce matin qui a soif. Alléluia. C'est une matinée d'équipement qui va te faciliter les combats de ta vie. Et les combats physiques et les combats spirituels. La vie de quelqu'un ne sera plus la même. Le ministère de quelqu'un ne sera plus le même. Chandon Dobosika. Tu ne seras plus la même maman. Tu ne seras plus le même mari. Tu ne seras plus le même père. Chandorobasikash. Kita.
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 Kita. Ya solo kita.
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 Kita. Ya solo.
Hallelujah. Kita.
Kita.
Quelqu'un à l'Isanga est en train de vivre quelque chose. Quelqu'un à l'Isanga est en train d'expérimenter quelque chose. Shandoroba Sita Shandem. Fondorobo Shikandorobos. L'information, c'est la clé dans le combat. L'information, si tu connais, beaucoup de choses sont facilitées. Tu peux connaître les intentions des autres. L'information. 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 Tout à coup, enfant un peu de Dieu. Enfant un peu de Dieu. Chandoroba Sikandorobas. Netola Masia. Namitema. Pole Nanzambe. Seigneur, merci pour ce que tu fais, Lissanga. Merci pour ce que cet homme et cette femme vivent, expérimentent. Ah, il y a quelqu'un à côté du groupe électrogène que tu es en train de visiter. Que tu es en train de tourner. Kita. Ce matin, comme Élisée pour son serviteur, je dis ouvre les yeux de quelqu'un. Ouvre les yeux de quelqu'un.
Kita.
Solo
Yahweh, Guyana, yo, Yahweh.
Vraiment, la bilimba la solo. S'il vous plaît, même ceux qui sont devant, commence à déclarer, l'ennemi ne me surprendra pas. Commence à déclarer, dans mes combats, l'ennemi ne me surprendra pas. Je connaîtrai d'avance. Commence à le déclarer. Au travail, on ne me surprendra pas.
Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.